problème?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Être entendu et respecté. Les crimes policiers ou bavures policières, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Insoumis et insoumises de Radio Canu sur le 102.2 ou bien sur radiocanu.org. Il est 9h passé de quelques minutes, on est dimanche, donc c'est l'émission Angle Mort qui prend l'antenne. L'émission de critique sociale, d'expérimentation sociale qui est un petit peu en rodage hein, depuis cette rentrée. Donc au menu de ce soir... eh bien ça risque d'être à nouveau un petit peu principalement musical, mais pour le coup j'ai quand même quelques petits trucs à lire. Il va être question, comme le laisse envisager ce lancement avec Assassin, les crimes policiers, etc., etc. Il faut que ça cesse. Donc il va être question de police, c'est pas particulièrement original, enfin en tout cas les textes que je vais lire vont pas forcément apprendre beaucoup de choses à une bonne partie des auditeurs de Radio Canu, puisque je suppose, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup de punk, de gens comme ça qui ont été confrontés à la police, qui vont pas apprendre grand chose des témoignages que je vais lire, d'autant que je vais parler de police, mais pas forcément non plus en apportant des solutions, une réflexion poussée, etc. Hein. En fait, pour dire un peu pourquoi, parce qu'en fait, quand je voulais préparer l'émission, j'étais tombé sur quelques extraits d'un livre qui va paraître et dont j'ai pas eu le temps de noter le titre. Je crois que c'est chez Sileps, qui réunit quelques témoignages de violences policières et notamment de cas d'assassinat de la police qui en fait devant les tribunaux ne sont jamais condamnés ou très faiblement, puisque les familles se heurtent souvent à une forme de solidarité entre tribunal et police. Et je pensais parler de ça parce que je pense que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Ferguson cet été aux États-Unis, donc un crime policier, un de plus, et là pour le coup bah, c'était aux États-Unis, puis en plus il y a eu un mouvement social et je trouvais les médias français bien pour le coup voilà, à parler de crimes policiers, etc., a montré que les familles avaient quand même des éléments à charge montrant que ce n'était pas un jeune voyou qui s'en était pris à un policier innocent, mais bien un crime policier injustifié. Et mais en même temps, je pense comme beaucoup d'auditeurs de Radio Canu, on se dit bah, c'est marrant parce qu'en France on en a quand même pas mal des crimes policiers aussi, et là en général les médias, c'est quand même un peu la croix et la bannière pour en parler, pour relayer et pour qu'il n'y ait pas de solidarité entre médias et police. Une solidarité qui s'explique sans doute par plein de raisons, dont une un peu pratique, hein. C'est vrai que la police en général c'est quand même les principaux fournisseurs d'informations pour les médias, notamment les médias locaux. Donc il doit y avoir une solidarité qui doit se jouer à ce niveau-là. Et donc voilà, je pensais lire quelques extraits de ce livre à paraître, qu'on peut retrouver sur le blog Les mots sont importants, lmsi.net. Et bon, en ce moment j'ai un petit problème de connexion internet, donc j'ai pas eu le temps de récupérer ça et de l'imprimer. Donc je me suis reporté sur quelque chose de plus ancien. Un chapitre du livre La France invisible, dont j'ai déjà lu quelques petits extraits dans cette antenne, sur Angle Mort. Livre qui était paru sous la direction du sociologue Stéphane Beau, de Joseph Confavreux et de Jade Lingard, les deux derniers étant des journalistes, je crois. Ouais, France Culture et Inrecuptible, c'est pas folichon tout ça, mais il y a des choses intéressantes dans ce livre, et donc qui était paru, je crois, 2006. Et dont un chapitre qui s'appelle Sous contrôle, comment avoir peur de la police quand on n'a rien à se reprocher, qui réunit donc quelques témoignages de personnes qui ont été confrontées à la police et montre comment bah, leur regard sur la police a évolué. Voilà, donc comme je le disais, ça va pas forcément apprendre grand chose à plusieurs auditeurs de Canu, mais et j'espère qu'il y a des auditeurs et auditrices qui sont pas forcément convaincus au préalable et qui bah, du coup ça pourra les leur décilier, je sais plus si ça existe, les yeux. Voilà, donc bon, on va commencer quand même auparavant par quelques titres musicaux. Et pour commencer, et pour éviter de commencer comme à mon habitude avec du gros punk hardcore, eh bien, on va commencer avec de la funk ou de la soul, en tout cas j'aime bien, c'est Marlena Shaw avec Liberation Conversation. Radio Canu 102.2, émission Angle Mort.
Pour les familles, c'est dramatique, tragique pour notre république. Ha!
semelle dans les coups de l'État.
If you say you spend, we'll treat you like an afro. If you pretend life, we'll treat you like a school, old school. But in these wild days, wild days, a wild days, no enough. Smell anything, what stings, so scare the lovers. It's smell the wars and the roses booming. When Giannis was drowned, 80 degrees in his clumsy tram. If you say you spoon, I will treat you like an outflow. If you pretend, I will treat you like a spoon, wild spoon. But in these wild days, oh wild days, oh wild days of nothing. Waiting for the elephants day by day. Waiting for the mine and for the skin and for the lovely way of life. Waiting for the elephants day by day. Waiting for the tusk and for the blood and for the little way of love. For the tusk and for the skin and for the strange way of a kissing.
Was drunk, 80 degrees, clumsy trunk.
śpiewam tylko nasze gariny, a lampa ta, kacia karna, gołi suta, sidi pria, sunka, swara, taruna, udanda, kwaraganapati.
Radio Canu, émission Angle Mort, lecture d'un chapitre du livre La France Invisible paru en 2006, chapitre intitulé Sous contrôle, comment avoir peur de la police quand on n'a rien à se reprocher. Depuis les années 1970 et le début des années 1980, le remplacement des rondes à pied par l'usage désormais systématique de la voiture et surtout l'autorisation accordée aux fonctionnaires de police de se rendre à leur travail en civil ont peu à peu réduit la présence visible de la force publique sur la scène quotidienne de leurs concitoyens. Désormais, quand l'administré voit sa police, il n'aperçoit en général que son véhicule. À partir des attentats de 1986 à Paris, la restauration des contrôles d'identité dits préventifs accentue la nature exclusivement interventionniste de cette présence. La circulaire d'application de la loi du 3 septembre 1986 explique qu'il est loisible aujourd'hui d'opérer des contrôles d'identité partout où un risque potentiel existe. Rue, place, quartier où des actes de délinquance sont fréquemment perpétrés, endroits où des infractions sont susceptibles d'être commises en raison de la configuration des lieux, couloirs de métro, rue déserte la nuit. Pour le sociologue Fabien Jobard, cette loi et l'autorisation en 1993 par le Code de procédure pénale du contrôle d'identité, quel que soit le comportement de la personne, ont pour conséquence de consacrer les policiers juges de la situation et de modifier les comportements des personnes susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. La crainte d'être contrôlé suscite une modification de l'attitude, modification qui justifie le contrôle d'identité. La boucle est bouclée. Au milieu des années 90, la multiplication des BAC, brigades anti-criminalité, unités d'intervention parfois en civil pour mieux surprendre les auteurs de flagrants délits, réactives et mobiles, souvent constituées de jeunes gens, achève d'alimenter une nouvelle représentation populaire de l'agent de la force publique. On passe du personnage de Pinot simple flic, moustachu franchouillard médiocrement impliqué dans son travail, à la figure agressive du cow-boy. Une police nationale qui nous prend pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cow-boys, chante au printemps 2006 le ministère des Affaires Populaires, groupe de rap du Nord. Alors, tous contrôlés ? Pas forcément. Mais l'on observe un sentiment de défiance récurrent vis-à-vis de la police, voire de peur, chez des personnes qui n'ont aucune raison objective de se sentir coupable de quoi que ce soit. Incompréhension, désarroi et ressentiment qui nourrissent un infernal cercle vicieux. Ceux qui ont peur sont ceux qui font peur et méritent donc qu'on leur fasse peur. Alors pourquoi courent-ils quand ils voient la police ? Elles n'ont ni le même âge, ni les mêmes origines sociales, ni la même couleur de peau, ne partagent pas les mêmes situations professionnelles et familiales, ni leur lieu de vie. Pourtant, toutes ces personnes ont en commun d'avoir au moins une fois dans leur vie vécu comme intrusive, agressive, voire abusive, l'expérience d'un rapport direct avec les agents de la force publique. Sans voix et souvent sans défense au moment des faits, elles en racontent ici leur version, et ce que cela a modifié du regard qu'elles portent sur les policiers. Azedine, 44 ans, vit à Sarcelles. Il est freelance dans la musique et le cinéma après s'être investi dans le travail social. Pour certains jeunes de la ville, éducateurs et rappeurs, il joue un rôle de jeune ancien, acteur d'une époque qui, à bien des égards, a préfiguré la leur. Un jour que je faisais la queue au service des étrangers qui se trouve au commissariat pour renouveler mon titre de séjour, un inspecteur passe et me regarde, puis revient avec un autre et me fixe. 5 minutes plus tard, accompagné de 4 gardiens de la paix, il m'accoste. Je me retrouve menotté. Un inspecteur me dit qu'une vieille femme s'est fait arracher son sac et que je corresponds au signalement. Je leur réponds « Oui, bien sûr, en chemin pour chercher ma carte de résidence, je tire un sac à une vieille, normal. » Sans m'écouter, il me pousse vers une salle. Je comprends que la femme s'y trouve, derrière une vitre sans teint. Il y a d'autres hommes, mais je suis le seul arabe de la pièce. Je refuse de rentrer. Il m'y force. Heureusement, elle ne m'a pas identifié. J'ai compris ce jour-là que ta vie pouvait basculer en quelques secondes. Depuis, je suis naturalisé français. Une autre fois, j'ai été humilié de la pire façon. J'habite alors dans le 95. Je dois avoir 18-19 ans. Avec des potes, on rentre à pied de chez une copine vers 1h du matin. Pour aller plus vite, on coupe par une cité. En sortant, on entend un gueulard, une sirène. 200-300 mètres plus loin, une voiture de flic arrive, à fond les manettes, et nous serre contre le mur. Parmi nous, il y a un mec un peu chaud. Il se prend la tête avec un flic qui a la main sur son flingue, et soudain, l'agent le pointe. « Lâchez-le, je vais faire une bavure. » Je serre mon pote à la ceinture, on tombe, il le menotte et l'embarque. Mais nous sommes trop nombreux pour tenir tous dans la bagnole. Les flics me prennent et me foutent dans le coffre, jusqu'au commissariat, comme un chien. Ce sont deux anecdotes parmi beaucoup d'autres, mais qui m'ont particulièrement blessé parce que, dans les deux cas, je n'avais rien fait. Chiefa, 30 ans, est opératrice vidéo. Née au Maroc, elle a grandi à Paris, dans le 18e arrondissement, quartier marqué du temps de son adolescence par la mort de Makome Mbowole, zaïrois de 17 ans, tué d'une balle dans la tête lors de son audition au commissariat des grandes carrières en 1993. Elle raconte. Je me souviens d'une époque où, malgré le fait d'être une fille et d'avoir une bonne tête, dès que je croisais un flic, c'était pour moi. Je me faisais contrôler et fouiller. La première question, c'était toujours, avez-vous des substances illicites ? Ça peut paraître ridicule, c'est presque sans raison précise, mais j'avais peur. À chaque fois que je me suis fait interpeller, j'ai eu l'impression qu'il me rabaissait. Mon identité semblait toujours poser problème. Je me sentais toujours devoir être dans la justification. Je suis né au Maroc, mais je suis de nationalité française. Encore aujourd'hui, j'ai toujours sur moi ma carte orange, ma carte d'électeur et ma carte d'identité. Une fois en contrôle, alors que je montrais mon passeport, on m'a dit que ça ne prouvait pas ma nationalité française. Aujourd'hui encore, quand je croise un flic dans la rue, je ne me sens pas en sécurité. Je me dis toujours, qu'est-ce qui va se passer ? Depuis 2006, j'apprends qu'à l'école, mon fils de 6 ans s'est battu à 3 contre 1. Le soir, je lui explique que ce n'est vraiment pas glorieux, qu'il ne faut pas faire ça. Le lendemain, un samedi, vers 16h, je suis à la station Châtelet, donc à Paris, avec lui. À 15 mètres de nous, un petit noir, il faisait 1m65, 1m70, se fait entourer de 4 flics. En 2 minutes, 2 le saisissent, un troisième se met à lui casser la gueule et une policière éloigne les badauds. Et là, mon fils me dit « Mais maman, tu m'as dit qu'il fallait pas se battre à 3 contre 1 ». Qu'est-ce que je lui réponds ? Son père est noir, mon fils est métis, c'est un noir en France, dans 10 ans, il va se le prendre dans la gueule. Pour Alex et Youssef, tous deux 23 ans, les contrôles de rue inopinés sont depuis longtemps monnaie courante. Mais, devenus médiateurs dans leur quartier, la cité de la maladrerie à Aubervilliers, ils ont découvert l'humiliation de devoir présenter leur papier d'identité même pendant leur service. Alex raconte. On se fait contrôler par les policiers dans la cité pendant notre travail, même si on leur dit qu'on est en service. Oui, mais t'es sur la voie publique. Après ça, tu n'es plus crédible auprès des habitants. Je me fais contrôler depuis que j'ai 12-13 ans. C'est une éducation qu'ils nous ont donnée. Youssef raconte à son tour. Le soir du mercredi 31 mai, pendant la pause du match France-Danemark, vers 21h30-22h, je descends fumer une clope en bas de chez moi à la maladrerie. La cité est tranquille. Des jeunes discutent dehors. Soudain, je vois arriver en courant une quarantaine de policiers. Ils viennent de partout, contrôlent l'identité. Et là, ils nous mettent au piquet. Debout, face au mur, pas le droit de mettre les mains dans les poches, pas le droit de parler. Je veux leur parler. Je suis médiateur. Tu fermes ta gueule. Ils menacent un gars. C'est toi qu'on a contrôlé hier, tu fais moi le malin. Il y a la vexation du contrôle jugé injuste. Il y a les effets collatéraux qu'il peut produire, parfois bien plus tard. Amar, 23 ans, habitant du Val-d'Oise, est au chômage depuis près d'un an. Il a perdu son emploi à cause de son immatriculation au STIC, le système de traitement des infractions constatées, fichier recensant les personnes mises en cause par la police, quelles qu'en soient les suites judiciaires. Il raconte. Un vendredi soir en 2004, je descends de mon immeuble. Au pied du bâtiment, je discute avec deux amis quand nous voyons arriver une quinzaine de policiers. Ils contrôlent nos identités. Soudain, l'un d'entre eux me met les menottes et m'embarque. Arrivé au commissariat, j'apprends qu'un vol a eu lieu et que le coupable, c'est moi, parce que je corresponds au signalement. Jeune maghrébin, pull gris, basket beige. Je les regarde, je porte un pull vert et des baskets grises. Je comprends que dans l'obscurité naissante de la soirée, ils ont mal vu les couleurs. La victime du vol m'identifie, j'hallucine. Je suis mis en garde à vue. Le lendemain matin, un policier prend ma déposition et me demande de la signer. Je la lis, ce sont des aveux. Je lui dis, c'est faux. Il me répond, pour moi, c'est toi, t'as les mêmes habits. Je m'inquiète. Mais il y a un problème, mon pull est vert, vous vous êtes trompé. Au bout d'un moment, j'insiste tellement que, fâché, il reprend la déposition, la refait, et me relâche. Affaire classée sans suite, me dit-il, sans s'excuser. Quelques mois plus tard, après une formation en sécurité incendie, je travaille dans un centre commercial. Au bout de 6 mois, je reçois une lettre de mon employeur. Selon lui, j'aurai un casier judiciaire. Bon, l'employeur se trompe sur ce point. Le fichier du STIC n'est pas le fichier des casiers judiciaires. Mais bon. Selon lui, donc, je reprends, j'aurai un casier judiciaire. Ce qui est interdit pour ce type d'emploi. Je suis licencié. Un peu plus tard, alors que je m'apprête à postuler pour un emploi à la RATP, je retourne au commissariat pour leur demander s'il risque de se reproduire la même chose. Un agent de la BAC vérifie, mon nom figure dans le fichier STIC. Depuis, j'ai envoyé une lettre au procureur de la République et je cherche du travail. Anne est chargée de communication pour une radio du service public. Elle n'avait jamais eu de problème avec la police et même n'avait jamais trop cru au discours dénonçant l'arbitraire policier. Jusqu'à cette sortie familiale un dimanche matin. Dimanche 14 mai, vers 10h30, moi-même, mon compagnon et nos deux enfants, 5 et 2 ans, partons en voiture au marché de Boulogne-Billancourt. Les enfants sont attachés, moi non. Mon compagnon met sa ceinture tout en démarrant doucement. à 20 mètres environ de notre domicile, au moment même où nous croisons un véhicule de la police nationale. Celui-ci fait aussitôt demi-tour et nous demande de nous arrêter. À partir de là, la machine s'est emballée à l'encontre de mon compagnon. Un agent lui demande ses papiers, carte grise, attestation d'assurance, permis de conduire. Ne les ayant pas sur lui, il se propose d'aller les chercher à notre domicile. À son retour, 2 minutes plus tard, les 3 fonctionnaires de police refusent de recevoir les papiers, poursuivant l'établissement des contraventions commencées pendant sa courte absence. Mon compagnon insiste, ne comprenant pas leur comportement, il dit alors « Pourquoi vous nous emmerdez ?» Les policiers sont alors sortis brutalement de leur véhicule, l'ont menotté et poussé dans la voiture devant nos enfants en pleurs. Ça va. Il a été placé en garde à vue jusqu'à 16h30. Fouille corporelle, obligation de se déshabiller, questions et commentaires avec des sous-entendus déplacés sur son pays d'origine, le Sri Lanka. Tout ceci s'est soldé par 5 contraventions et un procès verbal de convocation en justice pour outrage. Mon ami et mon mari est rentré anéanti du commissariat. Colline, 18 ans, lycéenne, n'avait jamais été arrêtée par la police. C'était avant sa mobilisation contre le CPE, hein, rappelez-vous, le contrat première embauche, au printemps 2006. Elle raconte. Pendant le mouvement anti-CPE, j'ai été arrêté garde Lyon et placé en garde à vue. Depuis cet épisode, j'ai peur de la police. Je ressens du dégoût alors que je n'avais pas d'a priori contre eux. Mon beau-père est policier. Tout le temps que nous avons été retenus au commissariat du 13e arrondissement, ce fut horrible. Nous étions une dizaine. Quand nous sommes entrés dans la cellule, ils ont dit « On a été plein toute la semaine, on n'a pas eu le temps de nettoyer. Ça puait l'urine, c'était irrespirable. Ils ne nous ont pas nourris, pas laissé aller aux toilettes. Et quand nous avons enfin pu y aller, ce fut la porte ouverte. » Il fumait devant nous, collé devant la porte de la cellule en criant « Retrait, retrait du CPE !» C'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de mourir. Je m'arrachais les cheveux, on tapait contre les murs, je me suis blessé le poignet contre le plexiglas. Après, on s'est rendu compte qu'on aurait pu faire des jeux ensemble pour s'occuper, mais dans la cellule, on n'arrivait même pas à se parler. Après la sortie, la première fois que j'ai vu un CRS dans la rue, j'ai couru pour m'enfuir. Je n'arrive pas encore à leur parler. Lors d'une autre manifestation, un CRS devant lequel je marchais m'a dit en chantant « You're beautiful !» Je me suis retourné, j'ai crié « Ouais, mais toi, t'es moche. » C'est sorti tout seul. Petite pause sur Radio Canu, émission Angle Mort.
Sound of resistance, it's a persistence that's making them scared. They bare their teeth, shot free. plus fun à ma femme, quand même. Hein.
Canu, émission Angle Mort, émission de critique sociale, émission d'expérimentation sociale, avec donc lecture ce soir d'un chapitre du livre La France invisible, dirigé par Stéphane Beau, Joseph Confavreux et Jade Lingard. Chapitre intitulé, je l'ai dit tout à l'heure, Sous contrôle, comment avoir peur de la police quand on n'a rien à se reprocher. Avant de reprendre la lecture de ce chapitre, j'en ai pas terminé, il reste pas très longtemps, mais il reste un petit peu. J'annonce qu'est-ce qu'on a passé comme titre musical là à l'instant. Il y a eu tour à tour, au départ bah, c'était les amis australiens de Comba Wamba avec le titre Police Brutality. Ensuite, Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, juste le dernier, c'était Défiance, hein, ça je me rappelle, puisqu'il tourne encore en bout derrière nous, avec un titre donc Défiance, groupe ricain de Portland, punk, avec un titre, une reprise en fait des Angelic Upstarts, le titre s'appelle Police Operation. Et avant, bah oui, c'était Guérilla Poubelle avec le titre Cogne sur un flic, pas sur ta femme. Voilà, donc on poursuit la lecture de ce chapitre sur la police en France actuellement, avec un sous-titre intitulé « La police en guerre contre le travail social ». Et oui, un soir d'octobre 2005, à Stains, peu après la mort de Zayed Bena et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, Hélène Reyes, 26 ans, rentre de la mission locale d'Épinay où elle travaille alors comme conseillère en insertion. Installée en Seine-Saint-Denis depuis 6 ans, elle est conseillère municipale communiste de sa ville, Stains. Elle raconte « En voiture, je croise des camions de CRS qui prennent la direction de la cité du Clos-Saint-Lazare. J'appelle aussitôt la mairie. Il y a un problème ?» On me répond que non. Je suis les camions en voiture, puis à pied. Les CRS commencent une opération escargot en roulant à 2 km/h. Ce soir-là, 2 poubelles brûlent. Le lendemain, la présence policière s'est considérablement renforcée. Dans la journée, je vois passer à plusieurs reprises, 3-4 fois peut-être, de véritables convois. Cela continue la semaine suivante. Un jour, je vois passer 4 cars et 8 camions. Je compte tellement je n'en crois pas mes yeux. On se serait cru en guerre. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la haine pour la police. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis consciente de faire une généralité, mais aujourd'hui, les flics, je ne peux plus les voir. Il ne se passait rien à Stains. Pas d'émeutes, pas de bâtiments incendiés. Nous ne pouvons pas dire que tout est calme et qu'il ne se passe jamais rien. On sait bien que quelques jeunes sont des écorchés vifs et que la moindre provocation peut entraîner chez eux des comportements violents. Mais là, les policiers cherchaient la merde. Le problème dans les cités, c'est que quand on voit la police, on n'a pas l'impression d'être protégé mais agressé. À Saint-Ouen, j'ai vu 2 flics arrêter des jeunes et les prendre en photo avec leur téléphone portable. Avant de s'installer dans le 93, Hélène, fille de cheminot, vivait à Limoges. La police, elle ne la connaissait que par les disques de NTM. Aujourd'hui, elle est contractuelle à la mairie de Villetaneuse où elle coordonne le programme de réussite éducative. Voici son propos, qui pour le coup est... Bref. Donc elle dit « Tout le travail social que nous sommes nombreux à essayer de fournir en banlieue a été réduit en poussière par le comportement policier pendant les émeutes. Nous essayons de travailler dans le dialogue avec ces jeunes, de leur offrir des espaces d'expression. À partir du moment où ils sont mis en position de balancer des pavés, on les prive de l'accès à la parole. Trop de police dans les banlieues? Non, pas assez, répond-elle aussitôt. » Donc là, c'est là où peut-être que... moi, je suis pas persuadé que on pourrait trouver une solution dans le fait de mettre plus de police dans les banlieues. Enfin, le problème me semble beaucoup plus profond. Bref, je poursuis la lecture du livre. Contre toute attente, ce n'est pas l'omniprésence des agents de la force publique qu'elle dénonce, mais leur indifférence au sort des populations qu'ils sont censés protéger. Ce qui est effectivement, pour le coup, un véritable problème. Donc elle raconte, à Villetaneuse, il y a un feu rouge où chaque semaine, plusieurs automobilistes se font braquer. L'autre jour, un gamin d'à peine 15 ans a brisé la vitre de ma voiture pour me voler mon sac. Heureusement, par précaution, je l'avais attaché à la ceinture. Mais vous ne verrez jamais un policier surveiller ce qui se passe. Par contre, interpeller les petits mecs à cagoule qui balancent des pierres sur le commissariat, ça ne pose pas de problème. À Stains vivent 33 000 habitants, et juste à côté, à Pierrefitte, 27 000. Il y a un commissariat et une voiture de police la nuit pour 60 000 habitants. Honnêtement, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre de la souffrance des habitants. Dans les cités, nous sommes des sous-citoyens. Allez, on va se repasser un petit titre de musique avant de finir la lecture de ce chapitre. We'll be right back. Ah, j'avais essayé de commencer musicalement cette émission de manière un peu douce, mais vous voyez que le naturel revient au galop. Donc à l'instant, c'était Contravené avec Police Bastard. Et je finis la lecture de ce chapitre sous contrôle de La France Invisible avec un sous-titre Privé de passeport car il s'appelle Ali. Il y a bien Ali McBeal, qui le regarde parfois à la télé, et Mohamed Ali, dont il garde une photo en mémoire dans son téléphone portable. Mais Mohamed le reconnaît, à l'exception notable de ces deux personnages singuliers, le nom Ali est l'un des plus communs du monde oriental. Son patronyme complet est, lui, déjà bien plus rare, Mohamed François Ali. Il n'a pourtant pas suffi à protéger cet éducateur spécialisé francilien d'une confusion administrative surréaliste. En septembre 2002, il dépose une demande de renouvellement de passeport à la sous-préfecture. Une semaine plus tard, il y retourne. Il raconte. À l'accueil, une femme me dit « Votre passeport est bloqué. Vous êtes recherché terroriste Schengen. » Je demande à voir sa chef de service. Celle-ci m'explique que j'aurais été arrêté à une frontière où j'aurais perdu mes papiers. Je suis très étonné. La seule frontière que j'ai jamais passée, c'est celle du Pays Basque pour aller quelques jours à Saint-Sébastien avec un groupe de jeunes que j'encadrais. À part un séjour en Algérie à l'adolescence, c'est l'unique fois où j'ai quitté le territoire français. Elle me demande pourquoi je veux un passeport. Je commence à avoir les nerfs. Je lui réponds qu'il y a un stage de macramé en Afghanistan que je ne voudrais rater pour rien au monde. Bon, ça lui plaît pas du tout. Elle élève la voix. Vous dites que je suis raciste ? Je n'ai jamais dit ça. Sortez de mon bureau. Et elle claque la porte. Je me retrouve dehors. Il y a plein de monde. Je leur annonce. Eh bien, voilà, je suis terroriste. Interrogé par le journal local, la préfecture avoue alors ne pas savoir d'où vient l'affiche signalant comme recherché par les polices européennes un Mohamed Ali, né lui aussi en 1963. Mais l'homonymie, aussi absurde soit-elle, les contraint, affirme-t-il, à attendre d'avoir eu accès à l'intégralité du dossier pour lui délivrer ses papiers. Un délai insupportable pour Mohamed François Ali, né en France, y ayant toujours vécu, père de famille et ancien employé municipal. Il raconte à nouveau. Après avoir reçu une lettre lapidaire m'annonçant que mon passeport est prêt, je retourne à la préfecture et là, il me donne mon passeport comme s'il ne s'était rien passé. Ils auraient pu débarquer chez moi en défonçant ma porte, me menotter, me tabasser et en guise d'excuse, rien. Ils ont touché à mon honneur. Je porte le nom de mon père, je ne vais quand même pas me débaptiser pour m'appeler Patrice Martin. J'ai senti du mépris, le mépris de cette administration. Et on poursuit avec un peu de musique et Suicidal Tendencies. Too long, something's about to happen. Get out of my way. Mort sur Radio Canu. On en a fini donc avec la lecture de ce chapitre de La France Invisible, livre dirigé par Stéphane Beau, Joseph Confavreux et Jed Lingard. On a passé à l'instant, c'était The Partisan avec Bastards in Blue, et auparavant c'était Suicidal Tendencies donc avec le titre Scream Out, et puis il nous reste une bonne petite dizaine de minutes pour eh bien continuer à pousser la chansonnette. Je vais recalmer un petit peu parce que là ça défrisait quand même pas mal, faire baisser un peu le rythme avec la Java des bons enfants tirée de l'album pour en finir avec le travail.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet scellé fin vite, qui portait une marmite, qui était à renversement. Et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Contrairement à ce qu'on croyait, il y en avait. L'étonnement est profond, on peut les voir jusqu'au plafond. Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie. Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits de l'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés, les curés seront mangés. Plus de patrie, plus de colonie, et tout pouvoir, il le nie. Encore quelques beaux efforts, et disons qu'on se fait fort de régler radicalement le problème social en suspens. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir à Dieu prend place et le vieux monde est à la casse.
Marre d'attrister mes proches, marre de vider mes poches dans des stupides années. divinité. Nos conditions survie n'ont pas des tombeurs. Un chant qui nous couleur, ni notre immense rancœur. Châtié par le sort dans nos quartiers destructeurs. Nos conditions survie n'ont pas des tombeurs. Un chant qui nous couleur, ni notre immense rancœur. Châtié par le sort dans nos quartiers destructeurs. Il est couvert gros comme les cratères. La santé de nos darons part en miettes. Après ces bons monde, on voudrait éradiquer notre propre famine. Les suicides nous écrivent plus que nos propres familles. Chaque dé encrypté, crypté à chaque jour que Dieu fait. Dis-moi la dire qu'il existe un monde en dehors du quartier. Sortir pour aller où? Bon, je suis pas doué pour la vie en société. Y'a peu de gens qui nous comprennent à part les gens comme nous. On me reproche souvent de parler peu. Frangin, frangine, ce que j'ai à dire c'est si peu que parfois ça vaut mieux. Laisse ta dignité au grève avant de monter en luxe. Comme tu laisses tes bombes de bord avant d'entrer à la mosquée. Évoluer dans les quartiers aux libertés confisquées. Entre les schmitts embusqués et les racistes offusqués. Jugés par des instances aux cervelles étriquées. Compliqué d'y échapper, mon reste impliqué. Condition survie, nos pas vous font peur. Elle ne change ni notre couleur, ni notre immense rancœur. J'attire par le sort dans nos quartiers.
De Radio Canus en 2.2, émission Angle Mort. On vient de s'écouter à l'instant Zone Libre, Kazay, B-James, et le titre, c'était surtout B-James là, je crois que c'était Quartier Destructeur. Avant c'était, je l'avais dit, La Java des Bons Enfants. Notre émission la touche à sa fin, on a le temps de se lancer un petit dernier titre. Juste le temps d'annoncer que la semaine prochaine, selon toute vraisemblance, nous allons avoir du relais, le retour de copains et copines, de copines en l'occurrence d'Angle Mort, qui assureront l'émission la semaine prochaine. Donc si vous en aviez marre d'entendre ma voix pourtant douce et chantante, eh bien la semaine prochaine, Angle Mort, ça sera d'autres voix. Voilà. Bon, donc on va se laisser pour terminer avec Luis Prima et Buonasera.
Franchement, les politiques crochent, j'ai grandi dans l'Égypte du crime, le fond de manière exponentielle. Zéro perspective d'avenir, compte sur l'aide providentielle. Je vois pas l'utilité, pas les futilités. J'aimerais y croire, mais je crois que les frères s'en branlent de l'unité. Chacun son procédé pour trouver la prospérité. Certains font appel au diable, d'autres aux divinités. Nos conditions survivent.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring
boy your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But to let do that to rip, but bona body boat, but do the battle boat. Buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. With that old moon above, the Mediterranean Sea. In the morning, senorina, we'll go walking. Where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. While I buy a wedding ring.